à tous, bienvenue dans ce dernier podcast sur le thème des archétypes. Alors aujourd'hui, pour finir, nous allons cheminer avec la dernière déesse qui est Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté, celle qui est désignée comme la déesse alchimique, car elle va représenter l'union des opposés. Avec Aphrodite, on va parler de sexualité, de créativité, d'amour et d'intimité. Dans la mythologie grecque, Aphrodite, c'est la déesse de la germination, des plaisirs et de la beauté, la déesse de l'amour sensuel qui va se vivre dans le charnel. Alors cette déesse, bien qu'elle ait certaines caractéristiques en commun avec les déesses vierges et les déesses de la relation, elle n'appartient à aucun groupe et en même temps elle porte tous les attributs des six déesses précédentes. Ce qu'elle cherche, Aphrodite va être différente de ce que cherchent les déesses vierges, mais elle leur ressemble sur le fait de pouvoir se concentrer sur ce qui a du sens pour elle, et les autres ne peuvent pas la détourner de son objectif. Elle est une déesse solaire, elle va symboliser le lien, l'intimité et notre vulnérabilité affective. Aphrodite possède un tempérament extraverti et elle va se nourrir de la vibration d'amour. Elle adore l'intensité et du coup, elle va être hypersensible au moindre sentiment de séparation et d'abandon. En permanence, elle cherche le lien et quand cet archétype est dominant, elle va tout mettre en place pour combler rapidement ses désirs et ses besoins de façon extrêmement éphémère. Le don d'Aphrodite va être de faire apparaître le meilleur dans une personne en lui montrant un intérêt tellement grand que la personne en face va pouvoir connecter avec son assurance et son pouvoir. Les personnes en contact avec des Aphrodites dans la lumière vont se sentir belles, vont se sentir intéressantes. Cette femme va inspirer les artistes, c'est une muse. Et ce qu'elle veut par-dessus tout, c'est créer et mettre de la beauté dans sa vie et tout autour d'elle. Et chaque fois que Aphrodite se réveille dans la vie d'une femme, il y a comme une énergie qui est générée, la personne brille, la conversation brille, et elle peut permettre de stimuler les pensées et les émotions. Donc ce sont des femmes qui cherchent la fusion sur tous les plans, aussi bien physique, sexuel que spirituel. En fait, elle va chercher l'absolu. Elle a vraiment besoin de faire partie de quelque chose de plus grand qu'elle. Et c'est ce qui fait qu'elle expérimente sans cesse. Et cette expérimentation peut la rendre aussi, dans son ombre, complètement insatisfaite. Les femmes aphrodites, ce sont des personnes qui ont tendance à vivre dans le présent immédiat. Et elles prennent la vie comme s'il ne s'agissait que d'une expérience sensorielle. Et elles font les choses sans forcément penser aux conséquences futures. Alors dans son ombre et ses excès, Aphrodite peut avoir beaucoup de mal à créer une relation stable car elle va voir l'engagement aussi comme une perte de liberté, une limitation dans la découverte du jeu et de ses sens. Donc elle, son enseignement, ça va être d'apprendre à résister à la tyrannie de l'ici et maintenant qui la conduit à vivre finalement comme s'il n'y avait pas de lendemain. La sexualité, les plaisirs sont très importants pour Aphrodite et selon l'éducation reçue, elle va faire de sa sexualité soit une arme, soit un art. Cet archétype va nous amener à parler aussi de sexualité et parler de sexe, on se rend bien compte que ça suscite encore la plupart du temps un sentiment de malaise, de pudeur coupable, voire de honte, ou à l'inverse, de dérision. Alors ce thème reste tabou dans une société où pourtant des sujets très intimes sont couramment abordés. Pour mieux comprendre pourquoi l'énergie d'Aphrodite est encore malmenée dans notre société et très peu comprise, il me semble nécessaire de retourner dans l'histoire en reprenant le premier épisode qu'on a pu voir sur le culte de la déesse. Alors il fut un temps où la femme régnait sur terre et dans les cieux, donc c'était cette époque qu'on appelait le matriarcat. Son pouvoir, elle le trouvait autant dans sa sexualité que dans sa maternité. Très tôt, dans le destin de l'espèce humaine, on a pu voir que la sexualité et la spiritualité étaient extrêmement liées. On a trouvé des inscriptions gravées sur des pierres ou sur les murs des cavernes qui représentaient le triangle vulvaire, porte du plaisir et porte de la vie. Certaines femmes à ces époques-là pratiquaient une sexualité sacrée, on les appelait les prostituées sacrées, et qui participaient à l'éveil chez les hommes. C'était des femmes initiatrices et elles initiaient les hommes au mystère du royaume d'Aphrodite, au jeu des plaisirs et des sens de l'amour. À ces époques-là, leur talent et leur beauté étaient totalement respectés. Ce rôle sacré honorait ainsi la dimension initiatique de la femme auprès de l'homme, en le réveillant ou en lui inspirant tout simplement sa virilité. C'était une manière aussi d'aider les hommes à se libérer de l'emprise maternelle en leur faisant contacter leur propre puissance et en leur apprenant les jeux de l'amour sans créer ni entretenir de dépendance émotionnelle. Donc en fait, aucune femme n'appartenait à aucun homme. Ces jeunes femmes, elles étaient de véritables éveilleuses des forces de vie, des forces créatrices, et il n'y avait absolument rien d'avilissant ou de répréhensible dans cette sexualité. Et chaque femme qui jouait le rôle ou qui s'identifiait à Aphrodite découvrait sa valeur de femme et donc sa fonction, comme on l'a vu, d'initiatrice. Donc ensuite, on avait vu dans le culte de la déesse qu'arrivait la société de l'épée, ce qu'on appelle la société du patriarcat. Et à ce moment-là, l'homme se met petit à petit à graver et à sculpter dans la pierre des phallus, érigé avec la même frénésie qu'il avait fait finalement pour la vulve. Alors après, surtout, la notion de paternité va se fonder sur l'autorité du père qui progressivement va l'emporter sur celle de la mère. Donc petit à petit, ils commencèrent par adjoindre un époux aux femmes en décrétant que Dieu était l'unique créateur et ainsi naquit Dieu le Père. C'est comme ça que la grande déesse, alias la déesse mère, disparut des cultes. Et quant aux prêtresses et aux prophétesses, elles furent exterminées et les prostituées sacrées furent remplacées par les putains. Alors pour désacraliser la sexualité, la religion va aussi la placer du côté de ce qui est bas, du côté du mal, du diable. Et pour cela, les hommes ils vont inventer un principe philosophique qui va dire la chair est inférieure et l'esprit supérieur. Donc la chair s'abaisse et l'esprit élève. La chair salit et asservit l'être et le détourne de ses devoirs et donc de la spiritualité. Les civilisations patriarcales vont donc inventer des légendes où la femme entraîne l'homme dans l'abaissement charnel et le condamne aussi au malheur. Donc bien évidemment, tout le malheur des hommes vient des femmes. Le mariage patriarcal est sans doute l'arme la plus apte à endiguer la sexualité des femmes. Réprimer la sexualité de la femme ne suffit pas, c'est la femme elle-même qu'il va falloir réprimer. Ainsi, certains hommes se donneront le droit donc de la mépriser, donc de l'écraser. Ainsi, la femme se méprisera et donc s'inclinera et perdra cette reconnaissance de sa puissance sexuelle. Donc, l'attitude coupable et jugeante face à la sexualité sont des obstacles à l'épanouissement de la déesse. Culturellement, la poursuite de l'amour et de la beauté a été jugée comme quelque chose de frivole et, dans le meilleur des cas, pouvant aller jusqu'à être considérée comme un péché. Alors on se rend compte que nous sommes encore, nous les femmes, imprégnées de cette histoire. Du coup, pour guérir de ces blessures, il va falloir réfléchir différemment et s'interroger par rapport à tout cela et reconsidérer aussi nos représentations conscientes et inconscientes de la sexualité et surtout examiner comment la sexualité a pu influencer dans notre histoire, sortir aussi de ces rôles où l'homme peut se croire obligé d'être toujours désirant et prêt pour la femme et aussi où la femme se veut désirable et désirée, donc offerte en continu. Aujourd'hui, il est temps que les femmes, mais les hommes aussi, prennent la responsabilité de développer leur sexualité et de la rendre beaucoup plus épanouie. Et ça va passer par la restauration de son estime, l'acceptation et l'amour de soi. Ça va nous inviter aussi à reconnaître nos besoins, de soigner nos blessures, d'apprivoiser notre corps, nos sensations, d'explorer notre sensualité, d'érotiser son corps, de développer aussi un imaginaire érotique pour pouvoir finalement accueillir l'autre, unique, différent et complémentaire. Nous sommes toutes des êtres de plaisir, notre corps est conçu comme cela. Et connecté à nos ressentis va nous indiquer le chemin et va nous montrer finalement, nous, de quoi nous avons besoin. Alors, pour nourrir Aphrodite, en fin de compte, les femmes, elles vont devoir apprendre surtout à se prendre par la main dans la sororité et pour ne pas partir dans les extrêmes de cet archétype, c'est-à-dire se diviser. Ce qu'il faut comprendre à travers justement tous les archétypes qu'on a pu voir précédemment, c'est que chaque extrême sont nocifs et que l'idée, ça va être de réunifier chaque archétype pour pouvoir les amener dans leur lumière et arrêter d'être séparés. Donc être séparés à l'intérieur de nous, mais être séparés aussi à l'extérieur de nous. Donc en fait, c'est la clé de toute guérison de comprendre ça. Notre travail à nous, les femmes, ça va être de rapatrier tous ces archétypes, même ceux que nous n'aimons pas, pour pouvoir devenir des femmes complètes. Et finalement, l'enjeu de ce troisième millénaire, ça va être de sortir l'humanité de sa logique binaire qui permettra enfin d'incarner et de vivre le « et » plutôt que le « ou ». Voilà pour ce dernier archétype. Alors merci pour votre écoute. J'aime à penser que cette série de podcasts autour des archétypes des femmes a pu vous donner plus de clarté et peut-être l'envie de plonger un peu plus dans la compréhension et la complexité de vous-même. Voilà, donc à très bientôt pour de prochains podcasts pour continuer à nourrir nos réflexions et nous interroger. Une belle journée à toutes et à tous.